Dr Ted Hildebrandt, OT Histoire, Li. Et Théologie, Conférence 21. Symbole copyright 2020, Dr Ted Hildebrandt. Il s'agit du Dr Ted Hildebrandt dans son cours d'histoire, de littérature et de théologie de l'Ancien Testament. Conférence 21, terminer le livre des juges avec Samson, le récit des deux Lévites, puis le livre de Ruth. Abimélec. Très bien, parlons du livre des juges. Ce dont nous parlions la dernière fois était de Gédéon combattant Madian, de Gédéon battant les Madianites avec l'épée du Seigneur, de Gédéon jetant leurs lampes à cocktail Molotov et prenant feu, sonnant des trompettes et remportant la victoire contre les Madianites. Ce qui s'est passé après la grande victoire de Gédéon, c'est que Gédéon a un fils et le nom de ce fils est Abimélec. Maintenant, le nom est vraiment important. Son nom est Abimélec. Abé signifie quoi en hébreu? Abba, père. Abi est donc, mon père. Melek signifie, roi. Mon père est roi. Qui est son père? Son père était Gédéon. Son père était-il roi? Non, il ne l'était pas. Y a-t-il des rois en Israël au temps des juges? Non. Alors, ce nom est-il vraiment un nom intéressant? Cela entre en conflit avec le livre, mon père est roi mais il n'était pas roi. Mais son nom est Abimélec, néanmoins. La fable. Déjà somme ce qui se passe maintenant, c'est que Abimélec prend le relais. C'est le frère aîné. Ce qu'il fait à tous ses autres frères est sûr, c'est qu'il les tue tous. Il y en a je ne sais pas, 30, 40, 50, il y en a des tonnes. Il tue ses frères est sûr. Ce qui se passe, c'est Jasom, l'un des plus jeunes gars, se cache et s'enfuit. Jasom monte alors sur le flanc d'une colline et il va raconter une fable à son frère et celle-ci se trouve au chapitre 9 du livre des juges. Il va raconter cette fable. Je vais juste raconter et donner une sorte de résumé de la parabole. Mais en gros, il monte et raconte cette histoire. Les arbres de la forêt sont sortis pour se faire roi. Au fait, qu'est-ce qu'une fable? Y a-t-il des fables dans la Bible? Qu'est-ce qu'une fable? Habituellement, une fable est comme un animal qui parle ou un arbre qui parle. Eh bien, ici, les arbres de la forêt sortent pour soindre roi. Et alors ils vont à l'olivier et ils disent à l'olivier, « Olivier, veux-tu être notre roi? Tu nous donnes de l'huile d'olive et toutes ces choses merveilleuses que nous mangeons. Des olives qu'on peut mettre sur une pizza. Et nous adorerions avoir un olivier pour notre roi. » Et l'olivier dit, « Je ne peux pas être ton roi. Si je suis ton roi, il n'y a pas d'olives et ce n'est pas bon. » Alors ils vont à la vigne. Et ils disent, « Eh, vigne, serais-tu notre roi? Vous pouvez faire la fête tout le temps maintenant quand la vigne est notre roi. Il y aura du vin pour tout le monde. » La vigne dit, « Je ne peux pas être votre roi parce que si je suis votre roi, je ne peux pas produire les raisins qui rendent le cœur de l'homme heureux. » Alors, finalement, il se dirige vers le buisson de ronces. Êtes-vous déjà allé au Texas? Un buisson de ronces est un buisson sur lequel il n'y a pas de feuilles. Ce ne sont que des épines et des chardons. Cela vous coupe les jambes lorsque vous essayez de les traverser. Ils sont généralement à hauteur de genoux. Ce sont des buissons bas, très épineux, presque dépourvus de feuilles. Ce ne sont que des épines et des chardons. Alors que se passe-t-il? Ils viennent au buisson épineux et disent, « Buisson épineux, veux-tu être notre roi ?» Et le buisson épineux dit, « Je serai ton roi. Viens te cacher dans mon ombre. » Maintenant, pourquoi est-ce si ironique? Le buisson épineux n'a pas d'ombre. Le buisson épineux sert à quoi? C'est bon à rien. Pourtant, il prétend qu'il sera le roi. Qu'est-ce que Jasom essaie de dire à propos d'Abimélec à travers cette histoire? Abimélec est-il le moins susceptible d'être le roi? Et pourtant, il prétend être le grand roi, mais il est en réalité le moins probable. L'olivier a disparu. La vigne est partie. Et voici ce buisson de ronces, maintenant ce buisson épineux essaie de devenir roi. C'est donc une fable? C'est une fable que raconte Jasom. C'est une fable enregistrée dans la Bible? Alors si vous voulez mettre les gens en colère, dites, il y a des fables dans la Bible. et les gens vont se déformer parce que beaucoup de gens pensent que la Bible est une fable plutôt qu'une histoire. Mais il y a des fables dans la Bible. Celui-ci est raconté par Jasum, à propos des arbres qui font de ce buisson leur roi. Au fait, cette fable sarcastique est-elle destinée à rabaisser son frère aîné? Et c'est donc à cela que sert cette fable? La fable du buisson épineux est une satire du pouvoir. Je pense que nous l'avons déjà dit, l'argent, le sexe et le pouvoir. Nous en avons parlé la dernière fois. Le pouvoir est celui qui obtient Abimelech. Il tue ses propres frères. Pour qu'il puisse avoir le pouvoir et être le prochain dirigeant. On voit souvent ce genre de choses. Si triste. C'est une histoire triste. C'est la fin de Gédéon. Voyez-vous à quel point Gédéon était vraiment une bonne personne. Mais voyez-vous qu'après le départ de Gédéon, ses fils se lancent dans cette guerre dans leur famille et détruisent simplement sa famille. Le clan de Gédéon s'effondre donc. Maintenant, la première tentative de royauté est Abimelech. Certains associent cela à la première tentative de royauté. Une tentative ratée de royauté se trouve ici dans le livre des juges. Dans le livre des juges il y a quoi? Il n'y a pas de roi en Israël, et chacun fait ce qui lui semble droit. Droite. Abimelech tente dès la première tentative de ce genre de petite royauté dans le livre des juges. Ce fut cependant une tentative ratée. Jephté. Qu'en est-il de ce camarade Jephté? Il est essentiellement célèbre pour une chose. C'est un galaédite. Il ne s'intégrait pas vraiment bien dans la société. Il a donc été chassé parce qu'il n'était pas accepté. Sa mère, il y avait là une certaine illégitimité. Ce qui se produit. Dieu dit-il parfois exactement le contraire de ce qu'il veut dire. Et au chapitre 10, verset 14, Dieu dit ceci, « Mais tu m'as abandonné. » Il parle au peuple d'Israël. Il dit que tu m'as abandonné et que tu as servi d'autres dieux. Alors je ne te sauverai plus. Le rôle de Dieu en tant que sauveur. Je ne te sauverai plus. Et puis Dieu dit ceci, va crier vers les dieux que tu as choisis. Laissez-les vous sauver lorsque vous êtes en difficulté. Dieu commande et il a son peuple l'idolâtrie ici. Il dit, allez vers les dieux que vous avez créés et criez vers eux. Dieu commande et il l'idolâtrie, ici. Est-ce du sarcasme? Dieu est-il sarcastique? Il dit, je ne vais plus vous sauver parce que vous adorez ces idoles. D'accord, va vers les idoles, laisse-les te sauver. C'est sarcastique. Il veut leur dire, débarrassez-vous de leurs idoles et revenez vers lui. Mais il utilise ici le sarcasme, disant exactement le contraire de ce qu'il voulait dire. Y a-t-il du sarcasme dans la Bible? En fait, Dieu devient-il sarcastique? Oui, il le fait. Il faut être très prudent avec le sarcasme. J'utilise souvent le sarcasme. Le sarcasme peut-il être très préjudiciable? Je n'oublierai jamais ma fille lorsqu'elle était en sixième. Elle est revenue vers moi 10 à 15 ans plus tard et elle m'a dit, « Je me souviens quand tu as dit et cité une chose folle que j'avais dite, mais j'étais sarcastique. » Elle n'a pas compris que c'était sarcastique. Elle pensait que c'était ce que je détenais réellement. Donc ce que je dis, c'est d'être prudent avec le sarcasme, car le sarcasme peut faire du mal aux gens qui ne comprennent pas. Mais Dieu l'utilise ici. Il y a donc une place pour le sarcasme et une place pour le sarcasme. Cela ressemble à l'Ecclésiaste ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Le contexte détermine donc le sens. Il est clair ici que Dieu ne voulait pas qu'il soit idolâtre. D'ailleurs, c'est le point. Dieu utilise le sarcasme pour faire quoi? Quelle est la fonction du sarcasme? Le sarcasme a-t-il pour fonction de les réprimander? Il utilise donc le sarcasme pour les réprimander. Il faut alors prendre cela en compte dans le contexte. Maintenant, que se passe-t-il? Jephté sort. Il dit, « D'accord, je me battrai pour vous les gars. Je vais vous conduire. Je serai le juge. » Dieu fait de lui un juge. Puis il est dit ceci, « L'Esprit du Seigneur vint sur Jephté. » Il s'agit du chapitre 11.2. Il a traversé Galade. Et Jephté fit un vœu à l'Éternel. Et c'est le vœu pour lequel Jephté est le plus célèbre, son vœu. Jephté a fait un vœu à l'Éternel, si vous livrez les Ammonites entre mes mains, tout ce qui sortira de la porte de ma maison pour venir à ma rencontre lorsque je reviendrai en triomphe des Ammonites appartiendra à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Il part combattre les Ammonites. Les Ammonites sont ici en Jordanie. Ce qui se produit. Il rentre à la maison. Qui vient à sa rencontre quand il rentre à la maison? Sa fille vient à sa rencontre quand il rentre à la maison. Alors maintenant, cela soulève une question sur les vux. Vous devez faire attention lorsque vous prononcez des vux devant Dieu. L'Ecclésiaste dit des choses intéressantes à ce sujet. Laissez-moi juste lire ceci. Ecclésiaste 5. Il y a d'ailleurs une grande sagesse dans le livre de l'Ecclésiaste. Il est dit ceci, gardez vos pas lorsque vous allez à la maison de Dieu. Approchez-vous pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés qui ne savent pas qu'ils font le mal. Ne soyez pas prompt à parler, ne vous précipitez pas dans votre cœur pour dire quoi que ce soit devant Dieu. Dieu est au ciel et vous êtes sur terre, alors laissez vos paroles être peu nombreuses. Allez au verset 4, lorsque vous faites un vœu à Dieu, ne tardez pas à l'accomplir. Il n'aime pas les imbéciles, accomplissez votre vœu. Il vaut mieux ne pas faire de vœu plutôt que de faire un vœu et de ne pas l'accomplir. Qu'est-ce qu'il dit? Quand vous entrerez dans la maison de Dieu, que vos paroles soient peu nombreuses. Je m'inquiète parfois de certains de ces rassemblements de jeunes qui ont eu lieu quand j'étais plus jeune. Les gens se levaient et disaient, est-ce que vous vous engagez à lire 3 chapitres des Écritures chaque jour? Combien d'entre vous feront cela? Tout le monde, levez-vous. Ils font le vœu de lire et des choses comme ça. Ce que je dis, c'est d'être très prudent en faisant cela. Dieu ne prend pas plaisir aux insensés. Faites juste attention lorsque vous faites des vœux devant Dieu. Jephté fait ce vœu, tout ce qui sort de la porte de ma maison. Maintenant, la question se pose, Jephté brûle-t-il sa fille? La brûle-t-il en sacrifice? Permettez-moi simplement de dire ceci, probablement 80 à 90% des érudits de l'Ancien Testament disent que Jephté a brûlé sa fille. Maintenant, qu'est-ce que cela devrait faire? Je vais vous dire que je ne pense pas qu'il l'ait brûlé. Mais qu'est-ce que cela devrait vous rappeler? Rildebrandt est le professeur de cette classe, il a raison. Non, non. Rildebrandt a probablement tort sur ce point. Mais pense-t-il toujours que c'est vrai? Ce que je dis, c'est que je sais que la plupart de mes amis spécialistes de l'Ancien Testament ne seraient pas d'accord avec moi sur ce point. Mais laissez-moi vous dire pourquoi je pense que Jephté n'a pas brûlé sa fille. Je pense que non. C'est une position minoritaire. Alors ce que j'essaie de dire, c'est, dois-je admettre que je peux parfois me tromper? Oui. Et je peux me tromper ici. Je veux juste vous avertir qu'il s'agit d'une position minoritaire. Il l'a peut-être brûlé. Mais voici les raisons pour lesquelles je pense qu'il ne l'a pas fait. Donc tout d'abord, quand on lui raconte que Jephté est revenu dans sa maison à Mizpa, qui devrait sortir à sa rencontre, mais sa fille dansait au son des tambourins. Son père est revenu de la guerre. C'est comme un militaire revenant d'Afghanistan. Ses enfants viennent accueillir papa à la maison. Ensuite, il est écrit, elle était sa seule enfant. Pourquoi évoque-t-on qu'elle était sa seule enfant? Notez simplement Tchou, elle était sa seule enfant. À part elle, il n'avait ni fils ni fille. Cela le rend donc vraiment, vraiment explicite. Mon père, répondit-elle, tu as donné ta parole au Seigneur. Fais-moi exactement ce que tu as promis. Maintenant, le Seigneur s'est vengé de tes ennemis. Elle dit, d'accord, je suis aussi d'accord avec ça, père. Elle dit, donnez-moi 2 mois. Elle a une demande de son père. Donnez-moi 2 mois pour parcourir les collines et pleurer avec mes amis. Pourquoi? Parce que je vais être brûlé. Non. Laissez-moi parcourir les collines pendant 2 mois pour pleurer avec mes amis, car je ne me marierai jamais. Maintenant, si vous étiez brûlé en sacrifice sur un autel, vous inquiéteriez-vous du fait que vous ne vous êtes jamais marié? Ou est-ce que le mariage passerait en quelque sorte au second plan? Si vous allez être brûlé par le feu, n'est-ce pas un peu plus important que d'être marié? Mais remarquez ici qu'elle dit, parce que je ne me marierai peut-être jamais. Tu peux partir. Et elle est allée 2 mois dans les collines. Elle et les filles font leur deuil dans les collines. Et pourquoi? Parce qu'elle ne se mariera jamais. En 2 mois, elle est retournée auprès de son père et il lui a fait ce qu'il avait promis. Quelle est la ligne suivante? Et elle était vierge. Et vous dites, attendez une minute, il vient de la brûler. Qui s'en fout à ce moment-là si elle est vierge ou non? Ce type vient de fumer sa fille dans le feu sacrificiel. Pourquoi mentionnerait-il, et elle était vierge? Les vierges brûlaient le plus fort. Quel est le problème? Je suis désolé. S'il vient de la brûler, pourquoi diriez-vous juste après l'avoir brûlée qu'elle est vierge? Cependant, si quelque chose d'autre arrivait, est-il possible que ce qu'il dit qu'il offrirait tout ce qui sort de la porte de sa maison, il y ait 2 manières de le prendre? Est-il possible de le lire ainsi? Le mot hébreu pour « et » peut également être traduit par « ou ». Y a-t-il une différence entre « et » et « ou » Et si vous le preniez de cette façon? Si vous me livrez les Ammonites, tout ce qui sortira de la porte de ma maison pour venir à ma rencontre lorsque je reviendrai triomphalement des Ammonites appartiendra à l'Éternel, où je l'offrirai en sacrifice. Maintenant, la NIV dit, sera au Seigneur et je l'offrirai en sacrifice. Est-ce différent de dire, je le consacrerai au Seigneur ou je l'offrirai en sacrifice? Cela lui permet de consacrer sa fille au Seigneur. Au fait, est-ce important alors qu'elle soit vierge, qu'elle ne se soit jamais mariée, qu'elle se consacre au Seigneur? Qu'est-ce que cela signifie? Aura-t-elle des enfants? Elle n'aura jamais d'enfants. Cela signifie que Jephté aura quelle descendance? Elle est sa fille unique. Au fait, dans le monde antique, était-ce une grande chose de ne pas avoir de descendance? Votre ligne s'est-elle terminée à ce moment-là? Et c'est pour ça qu'elle pleure, il pleure parce que sa réplique est finie. Elle est sa dernière chance d'avoir une descendance et maintenant, elle est interrompue. Elle est dédiée au Seigneur. Elle ne se mariera jamais, elle est vierge, elle n'aura pas d'enfant. Cela a-t-il du sens? Je pense que c'est ce qui s'est passé. Il l'a consacrée au Seigneur. À propos, si vous regardez les numéros 8 et que le docteur Jean Burger de Park St. Church l'a souligné, je pense que c'était une observation brillante. Je ne l'avais jamais remarqué dans le passé. C'est pourquoi j'aime aller à son église. Chaque fois que je vais dans son église, j'apprends quelque chose de nouveau. Il a tiré cette chose de nombre 8.11, regardez ça. Nombre 8.11, il est dit, Aaron présentera les Lévites devant l'Éternel en offrande agitée. Les Lévites doivent être présentés comme une offrande agitée. Cela signifie-t-il qu'il tue tous les Lévites et les agite devant le Seigneur en sacrifice? Non, cela signifie qu'il les consacre au Seigneur en sacrifice. Est-ce que quelqu'un se souvient de Romains 12.1? Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service raisonnable. Nous devons également nous consacrer à Dieu en sacrifice. C'est donc plutôt quelque chose de dédicatoire lorsqu'il s'agit d'êtres humains. Dois-je me retirer pour dire quoi? La plupart des spécialistes de l'Ancien Testament ne sont pas d'accord avec moi. Est-il probable que je me trompe ici? La vérité honnête est que la NIV est traduite par un « et » au lieu de « et » ou. Donc, sur certains points, il faut être humble. Mais peut-on encore être têtu? On peut encore dire, je pense qu'il ne l'a pas brûlé, je pense qu'il l'a consacré au Seigneur. Le contexte l'indique en quelque sorte. Mais je peux me tromper ici. Donc, c'est Jephté. Shibboleth. Maintenant, Shibboleth et Shibboleth. C'est une question de vocabulaire SAT. Que veut dire Shibboleth? Shibboleth est un mot qui vous fait entrer dans un groupe. Y a-t-il certains groupes qui utilisent certains mots pour vous intégrer dans leur groupe? Si je dis, je fais partie des 99%. Cela me ferait entrer dans quel groupe? Occupé Wolsin. Oui, je fais partie des 99%, sur ces salaires vous pouvez garantir que je ne fais pas partie des 1%. C'est donc une chose importante pour eux. Divers groupes utilisent certains mots à la mode. Avez-vous vu ça au lycée? Est-ce qu'on fait encore ça dans les lycées? Différents groupes utilisent différents mots à la mode. Les sportifs parlaient d'une certaine manière, les gens qui se droguaient à mon époque parlaient d'une manière différente. Ainsi, différentes personnes parlent avec différents Jive Talk. Voici donc ce qui est arrivé à GFT. GFT se bat en Jordanie. Les Ephraimites qui combattaient se trouvaient dans une autre région. Ils ne sont pas venus aider GFT. Alors ils viennent vers GFT et veulent faire la guerre à GFT et disent « Vous ne nous avez pas invités à la guerre. Nous allons venir et maintenant élever la canne avec vous. » GFT s'installe donc au bord du Jourdain. Alors que les Ephraimites traversent le Jourdain, il leur fait dire « Shibboleth ». Mais il sait que parce qu'ils sont d'Ephraïm, ils ne peuvent pas dire Shibboleth, parce qu'ils disent toujours, Sié, pour, voiture, et ils disent, Idehar, et il le sait parce qu'il prononce ces mots, il sait qu'il je viens de Boston. Il sait qu'il existe des dialectes régionaux. Si je dis, vous venez tous chez moi, dès que je dis, vous tous, que se passe-t-il? En Nouvelle-Angleterre, lorsque vous dites, vous tous, votre QI baisse de 20 points. C'est comme ça en Nouvelle-Angleterre. En revanche, si vous parlez avec un accent britannique en Nouvelle-Angleterre, votre QI augmente de 20 points. Je plaisante, mais pas vraiment. Donc ce que je dis, c'est que lorsqu'ils traversent le Jourdain ici, il dit « dites Shibboleth » et ils disent « Shibboleth ». Puis il a dit que ces gars étaient des Ephraimites. Il le savait à la façon dont il le prononçait, qu'il mentait. Puis il tua les Ephraimites. Donc ce Shibboleth est utilisé maintenant, en général, dans la langue anglaise pour désigner un mot à la mode au sein d'un certain groupe, ce qui signifie que vous êtes identifié à ce groupe. Ainsi, chaque groupe a ses mots à la mode ou ses mots de code spéciaux. À propos, en tant que chrétien, nous parlons dans une certaine langue qui est différente. Je dis que nous avons également différents mots à la mode. Chaque groupe en aura. Ainsi, ces mots de code identifiant un groupe sont appelés « Shibboleth ». Présentation de Samson. Maintenant Shimshan, combien d'entre vous prononcent ce mot « Samson » avec un « P » dedans? Samson. On le prononce avec un « P ». Y a-t-il un « P » dans Samson? En fait, ce que vous faites, c'est utiliser la prononciation grecque. Le grec comporte un « P » et il est devenu anglais. À propos, vous voyez que, SMS, Shamosh signifie, soleil. Donc en fait, son nom signifie, Sunni. Donc, Samson, si vous deviez vraiment traduire son nom, signifie, Sunni. Je plaisante, mais pas vraiment. J'appelle Samson, Sunni. Maintenant, que savons-nous de Samson? Tout d'abord, permettez-moi de faire quelque chose territorial avec Samson. Où sont les Philistins? Faisons une activité en classe, mer de Galilée, Jourdain, mer morte. Vous êtes la Jordanie, vous êtes Israël et vous êtes la mer Méditerranée. Où seront les Philistins? Directement sur la côte méditerranéenne. Les Philistins vont toujours essayer d'attaquer les Juifs depuis l'Ouest. Où vont-ils attaquer les Juifs? Où sont les Juifs? À Jérusalem, en Israël. Les Juifs sont toujours dans les montagnes. Ainsi, les Philistins montaient toujours dans les montagnes. Mais il n'existe que certaines manières d'accéder aux montagnes. Ainsi, l'un de ces chemins menant aux montagnes passe par Beth-Horon, Beth-Horon supérieur et Beth-Horon inférieur. D'ailleurs, les routes sont toujours là aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, quand on veut monter dans les montagnes, on suit les mêmes routes qui s'y trouvent depuis 2 ou 3 000 ans. C'est l'entrée de Beth-Horon. Il y a une autre entrée ici. C'est le Kiriat entrée de Jérim. C'est là que David fit monter l'arche à Jérusalem. C'est donc là que David a fait monter l'arche. Vous vous souvenez et le gars a touché l'arche et a été tué par le Seigneur. Uzza, Pérez Uzza. Et donc voici le Kiriat entrée de Jérim. Maintenant, où est Samson? Shimshon, ou Sunni, vit juste dans la région du Zohar et de Beth Shmei, la maison du soleil. C'est de là que vient Samson. La femme de Samson de Tima. Maintenant, d'où vient la première femme de Samson? Quand il va se marier, sa femme est de Tima. Voyez-vous à quel point c'est proche? Alors il monte, et c'est là que Samson traîne et là où elle traîne dans les villes voisines. Alors Samson rencontre cette Philistine et c'est à ce moment-là qu'il descend et entre en contact avec elle. Maintenant, une autre entrée qui sera importante pour nous plus tard est la vallée d'Ela. Au fait, voyez-vous la ville de Guess ici? Qui est célèbre de Guess? C'est un grand type qui n'aimait pas que les enfants lui jettent des pierres, Goliath de Guess. Lorsque Goliath de Guess vient combattre Israël, ils combattent dans cette vallée d'Ela. Dans quelle ville la vallée d'Ela débouche-t-elle? Bethléem. David est originaire de Bethléem. David descend de Bethléem ici et c'est ici que David combat Goliath. C'est ainsi que vous entrez. Si vous voulez monter dans les montagnes, voici comment procéder, et c'est là qu'ils se sont battus. Goliath était de Guess et David était de Bethléem et ils se sont battus dans la vallée d'Ela. Alors Samson, Shimshon, il va traîner ici même à Kiriath Jearim entrer, il va rencontrer cette fille de Tima. Le premier récit de Samson. Maintenant, chapitre 13, voici ce qui se passe avec Samson. Encore une fois, les Israélites ont fait ce qui déplaît aux yeux de l'Éternel. Il y a donc cette rébellion, puis le châtiment. Encore une fois, les Israélites ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et ainsi l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pour 40 ans. Les Philistins aimaient ils tabasser les Juifs? Oui, ils ont. Les Philistins travaillaient le fer. Ils avaient la technologie de leur côté et s'en prendraient aux Juifs. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un homme nommé Manoah. Il a une femme. Un ange vient voir la femme de Manoah et il lui dit que tu vas avoir un fils et que quand tu auras un fils, dès sa naissance, il ne devra rien prendre du raisin et il ne devra pas se couper les cheveux. Autrement dit, dès sa naissance, il sera un quoi? Il est naziréen de naissance. Ne se coupe jamais les cheveux de toute sa vie. D'ailleurs, on lui dit même, ne bois pas de vin. Vous avez un bébé dans votre ventre qui va être naziréen et vous, en tant que mère, ne devez pas boire de vin. Cela signifie simplement que dans les soins prénatals, vous ne devriez pas prendre de drogue, n'est-ce pas? Non, c'était une blague, pas vraiment, mais tu sais ce que je dis. Ne doit-elle pas boire du vin parce que c'est de l'alcool? Ou ne doit-elle pas boire de vin parce qu'il est naziréen? C'est parce qu'il est naziréen. Le mariage de Samson avec la Philistine de Tima. Ainsi Samson est né et Samson grandit. Alors Samson descend à Tima et il y trouve une femme qu'il veut épouser. Au chapitre 14, Samson descendit à Tima et vit une jeune Philistine. Et il revint et dit à son père et à sa mère, « J'ai vu une Philistine à Tima. Maintenant, prends-la pour moi, pour ma femme. » Il voit la fille, mais se pose une question, dans les temps anciens, les parents organisaient-ils des mariages? Les parents ont-ils dû arranger le mariage? Je pense que c'est une bonne chose. En fait, c'est fou, mais c'est comme ça qu'ils faisaient à l'époque. Je ne devrais pas dire que c'est fou. À propos, est-ce que certaines cultures font cela jusqu'à ce jour? Où les parents arrangent-ils le mariage? Alors il va voir ses parents et leur dit, « Prends-moi cette fille que j'ai vue. » J'ai souvent demandé, « Qu'est-ce que l'amour ?» La géographie et les hormones sont égales à l'amour. Vous pouvez écrire cela. La géographie et les hormones sont égales à l'amour. Pourquoi Samson est-il tombé amoureux de cette fille? Elle se trouvait à Tima, dans la ville voisine. De qui tombes-tu amoureux? Les gens avec qui vous êtes. Les gens avec qui vous travaillez, les gens avec qui vous allez à l'école. Tu sais. La géographie y est-elle pour beaucoup? La géographie y est pour beaucoup. Alors Samson, juste à côté de Tima, tombe amoureux de cette fille. Mais ses parents reviennent. Son père et sa mère répondirent, « N'y a-t-il pas une femme acceptable parmi vos proches ou parmi tout notre peuple? Faut-il poursuivre les Philistins incirconcis pour trouver une femme? » Mais Samson dit à son père, « Prends-la moi. Elle est faite pour moi. C'est intéressant, les parents ici, et c'est un point que je veux aborder dans la mesure où sa femme de Tama semblait incapable de dire « non » à Samson. Samson obtient ce que Samson veut. Samson veut cette fille, il s'y oppose et il passe outre leur objection. Il prend cette fille de Tama, le Philistin de Tama. Or, le Seigneur était également impliqué dans cela et allait utiliser l'attirance de Samson pour cette femme pour vaincre les Philistins. Alors Samson tombe la première fois et que fait-il? Il rencontre un lion. Samson, un gars très très fort, déchire le lion à main nue. Il démonte le lion, tue le lion puis il descend voir sa future épouse. Il revient une seconde fois et quand il revient à la carcasse du lion, qu'y a-t-il dans la carcasse du lion? Il y a des abeilles et du miel. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il l'attrape. Je me demande toujours comment on peut faire ça sans tout l'attirail, mais en les fumant ou autre et il obtient le miel. Alors maintenant, il a quoi? Au fait, il vous raconte l'histoire de ce lion et du miel parce que cela va devenir important plus tard. Alors il descend là-bas, c'est un gars très fort qui va réaliser des exploits incroyables. Il est vraiment extrêmement fort. Évidemment, doté de l'Esprit de Dieu mais aussi, vraiment juste un gars fort. Avez-vous déjà vu un gars grand et fort, du type athlétique, qui veut aussi être un gars intelligent? Donc Samson doit prouver qu'il est un gars intelligent. Alors il va leur raconter cette énigme. Alors il se rend au mariage et il participe à ce festin de noces de 7 jours. Samson dit, « Laissez-moi vous raconter une énigme, leur dit Samson. Si tu peux me répondre dans les 7 jours qui suivent la fête, je te donnerai 30 vêtements en lin et 30 ensembles de vêtements. Si vous ne pouvez pas me donner la réponse, vous devrez me donner 30 vêtements en lin et 30 ensembles de vêtements. Dites-nous l'énigme, dirent-ils. Écoutons ça. Il a répondu, et c'est la fameuse énigme. Il y a aussi des énigmes dans la Bible. Du mangeur est sorti quelque chose à manger, du fort est sorti quelque chose de sucré. Alors, que se passe-t-il? Ils ne parviennent pas à résoudre l'énigme et le 4e jour, ils interrogent la femme de Samson. Si vous n'y parvenez pas en faisant face à l'homme, en tête à tête, que faites-vous? Passer par la femme. Question, est-ce efficace? Oui, c'est le cas. Je ne le recommande pas, mais c'est efficace. J'ai fait ça, ce genre de choses, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, d'accord, le 4e jour, ils ont dit, amenez votre mari à nous expliquer l'énigme ou nous vous brûlerons à mort, vous et la maison de votre père. Vous nous avez invités ici pour nous voler. Alors la femme de Samson se jeta sur Samson en sanglotant. Tu me détestes? Tu me détestes? Tu ne m'aimes pas vraiment? Vous avez posé une énigme à mon peuple et vous ne m'avez pas donné la réponse. Vous êtes à votre mariage, et c'est comme un mariage de 7 jours, et votre femme commence à jouer. Que fais-tu? Maintenant, j'ai toujours l'impression que lorsque je vais à ce passage, je ferai mieux d'en parler. Je connais un jeune homme qui, lorsqu'il s'est marié, a vécu le mariage. Au fait, y a-t-il beaucoup de pression sur la femme? Quand vous allez à un mariage, y a-t-il une énorme pression? Oui. Les mariages sont-ils désormais pires que jamais en termes de pression, à mon avis? Cette femme était donc très, très sous pression. Ils ont assisté à la cérémonie et tout semblait bien se passer. Ils sont descendus dans les sous-sols d'une église. Ils y ont eu une réception. Ils dînèrent avec tout le monde et saluèrent tout le monde. C'est super. Et quand tout est fini, ils montent dans la voiture avec les canettes et partent au coucher du soleil et partent en lune de miel. Le gars dit, « Enfin, je suis marié à cette femme. C'est le plus beau jour de ma vie. Ce type est tellement heureux. » Ils arrivent à l'hôtel et tout d'un coup, elle se met à pleurer. Le gars essaie de comprendre, qu'est-ce que j'ai fait? Ai-je dit quelque chose de mal? Y avait-il quelque chose que je n'aurais pas dû faire? Que veux-tu? Voulez-vous des fleurs? Quoi? Que veux-tu? J'aurai ce que tu veux. Pourquoi pleures-tu comme ça? Je ne sais pas pourquoi je pleure. Avez-vous déjà demandé à une femme pourquoi elle pleure? S'ils ne savent pas pourquoi ils pleurent, comment êtes-vous censé le comprendre? Qu'est-ce qui ne va pas? Ai-je mal prononcé mes vux? J'ai bien dit les vux. Alors tu paniques parce que tu n'as jamais été marié auparavant et tout d'un coup, elle se met à pleurer. Tout ce que je veux vous dire, c'est, avez-vous déjà été dans une situation où l'adrénaline est vraiment forte et il y a tellement de pression et d'adrénaline et puis tout d'un coup, vous pouvez vous détendre. Quand tu descends, tout d'un coup, tu te mets à pleurer sans raison. C'est ce qui peut arriver. Eh bien, c'est ce qui s'est passé lors de ce mariage, je le connais très bien. La femme se met à pleurer et ce n'est pas qu'il ait fait quelque chose de mal. Mais c'était parce que le mariage et toute la pression étaient terminés. C'était fini maintenant et ça l'a fait tomber. Donc, tout ce que je dis, c'est que ce n'est pas cool quand une femme pleure à un mariage. Ce n'est pas une bonne chose. Mais cela arrive à cause de ces cycles. Je veux juste vous prévenir car personne ne m'a prévenu et c'était une soirée qui ne s'est pas trop bien passée. Pourquoi Samson est-il stupide? Sa femme se jeta sur lui en sanglotant, « Tu me détestes. Tu me détestes. Tu ne m'aimes pas vraiment. Vous avez posé une énigme à mon peuple mais vous ne m'avez pas donné la réponse. Maintenant, Samson va dire certaines choses ici. Les larmes sont-elles puissantes? Samson est-il fort? Une femme pleure et l'homme fort, quoi? Que faire quand une femme pleure? Vous êtes impuissant. Samson, grand et fort, est impuissant devant les larmes d'une femme. Que pouvez-vous faire? Il y a donc les larmes, mais ensuite ce qui se passe, et ce que je vais suggérer, c'est comment ne pas traiter une femme. C'est la réponse de Samson. Elle pleure, tu ne m'as pas parlé de ta femme bien-aimée. Il répond, je ne l'ai même pas expliqué à mon père et à ma mère, dit-il. Pourquoi devrais-je vous l'expliquer? Règle numéro 1, on n'associe pas le beau-père et la belle-mère. Vous l'apportez au père et à la belle-mère, ça explose. C'est moche. Tu ne fais jamais ça. C'est vraiment stupide. Maintenant, vous dites, Ril de Brent, comment savez-vous cela? Je sais que c'est stupide, j'ai déjà fait ça. Je vous dis juste que c'est la voie de l'expérience. On n'implique pas le père et la belle-mère. Vous y faites face sans ces choses extérieures. Donc ce que Samson a fait ici était vraiment stupide. Vous ne dites pas, je ne l'ai même pas dit à mon père et à ma mère. Alors pourquoi devrais-je vous le dire? Qu'est-ce que cela change à son statut? Il vient de la placer au-dessus ou au-dessous de son père et de sa mère. Sous. Il est censé être marié à cette femme. C'est vraiment stupide. Et c'est ainsi qu'elle a pleuré pendant les 7 jours de la fête. Alors le 7e jour, il le lui a finalement dit parce qu'elle continuait à le presser. Elle expliqua à son tour l'énigme à son peuple. Le 7e jour, avant le coucher du soleil, ils entrèrent et dirent, « Qu'y a-t-il de plus doux que le miel? Et qu'y a-t-il de plus fort que le lion ?» Et ils ont résolu son énigme. Et puis ce type ne comprend tout simplement pas. C'est vraiment drôle. Je veux dire, c'est vraiment terrible, ne fais jamais ça. Ils ont compris son énigme, qu'y a-t-il de plus doux que le miel? Qu'est-ce qui est plus fort qu'un lion? Samson dit, si tu n'avais pas labouré avec ma génisse, tu n'aurais pas résolu mon énigme. C'est ce qu'on appelle parler métaphoriquement. Quand vous parlez métaphoriquement et que vous utilisez une génisse pour symboliser métaphoriquement votre femme, ce n'est pas bien. Au fait, existe-t-il certains animaux que la Bible utilise pour symboliser une femme comme une gazelle? Ce sont de beaux animaux. Non, non dans le Cantique des Cantiques. Une génisse, non, on n'utilise pas de génisse. C'est terrible. Alors Samson ici, vraiment, c'est fini. Ce qui se passe donc, c'est que l'Esprit du Seigneur descend en lui avec puissance. Il descend et tue 30 Philistins, ramène leurs vêtements et les donne aux gars. Alors que fait-il à sa femme? Et brûlant de colère, il se rendit à la maison de son père et la femme de Samson fut donnée à son ami. Maintenant, c'est quelque chose que vous devez savoir. Dans ce genre de contexte, vous aviez un ami qui est comme votre témoin. Si le gars renonce, alors le témoin épouse la femme. Donc ce que dit Samson, c'est qu'il est dans ce processus de mariage. Tout s'effondre et l'autre gars intervient et Samson rentre chez lui. C'est une catastrophe. Question de l'étudiant, à quelle fréquence et pourquoi les gars abandonnent-ils? Samson a renoncé parce qu'il était en colère parce que sa femme l'avait trahi et ne lui avait rien dit. Mais si elle ne l'avait pas trahi, qu'aurait-il fait à son père? Ils auraient tué son père. Donc oui, ils avaient déjà des sauvegardes à l'époque. Mais les raisons sont souvent compliquées. Voilà donc comment Samson a commencé. C'est sa première femme, sa femme de Tamar. 3 stripes et vous êtes éliminé. C'est sa première frappe. Maintenant, concernant l'Esprit de Dieu sur les gens de l'Ancien Testament, il est dit, l'Esprit de Dieu est venu sur Samson et il a continué et a tué les 30 Philistins. L'Esprit de Dieu est donc sa force. Quelle est la relation entre l'Esprit de Dieu et le peuple de l'Ancien Testament? L'Esprit de Dieu a-t-il déjà quitté les gens dans l'Ancien Testament? Pouvez-vous me raconter une situation avec une personne où l'Esprit de Dieu l'a quitté? Le roi Saül. Maintenant, certaines personnes pensent que lorsque l'Esprit de Dieu le quitte, cela signifie que Saül ne croit plus en Dieu et qu'il a perdu son salut. Non, non, non. L'Esprit de Dieu les a dotés de dons spéciaux. Samson était doté du don de force. Saül était doté du don de royauté. Lorsque l'Esprit le quitte, cela signifie que l'Esprit de royauté quitte Saül. Cela ne veut pas dire qu'il est nécessairement non-croyant. Saul a d'autres problèmes qui le montrent clairement. Mais ce n'était pas l'Esprit de Dieu. Certaines personnes pensent que l'Esprit de Dieu n'est venu que dans Acte 2 du Nouveau Testament, à la Pentecôte. L'Esprit descend à la Pentecôte. Y avait-il l'Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament? Oui, c'était le cas, et cela s'est abattu sur les gens, les dotant de certains dons. Dans le cas de Samson, c'était la force, chez Saül, c'était la royauté. Vous allez donc voir l'Esprit de Dieu travailler avec les gens dans l'Ancien Testament. Ce n'était pas que l'Esprit de Dieu n'était pas là. C'est dans Acte 2 mais je laisse cela à votre professeur du Nouveau Testament. Ainsi, l'Esprit de Dieu était dans l'Ancien Testament, dotant les gens de dons. Samson est le street yazer de Gaza. Eh bien, c'est la première femme de Samson. Qui est la deuxième femme? Samson descend à Gaza. J'appelle cette femme la street yazeuse de Gaza. Non, c'est la bande de Gaza. Vous réalisez que la street yazeuse a sa place là-dedans. Voilà donc Gaza. Il descend à Gaza. Samson est descendu à Gaza où il a vu une prostituée. Il est allé passer la nuit avec elle. Maintenant, je vous ai dit combien de respect j'ai pour le docteur Gordon Hilgeburger. C'est un penseur de grande qualité, l'un des meilleurs prédicateurs que j'ai jamais entendu de ma vie. Le docteur Hilgeburger passe à Hébreux 11, et dans Hébreux 11 il est dit, l'un des grands héros de la foi est Samson. Samson, dans Hébreux 11, figure parmi les grands héros de la foi. Alors il revient et il dit qu'il ne voit pas les faiblesses comme étant négatives, même Samson se prostituant. J'ai pensé, comment fait-il ça? Il a arrêté sa série de sermons sur les juges avant de parler de Samson. J'étais juste sur le bord de mon siège, attendant une solution. Mais j'ai découvert, voici ce qu'il fait, il dit, qui aussi en Israël s'est prostitué totalement cachère. Quelqu'un se souvient-il de la façon dont Josué a envoyé les espions? Et les espions sont entrés chez qui? Rahab la prostituée. Maintenant, était-il là pour ses affaires ou essayait-il d'obtenir des informations? Il s'agissait d'une tentative d'espionnage. Donc, le docteur Hilgeburger, apparemment, et je ne l'ai pas entendu dire cela, je l'ai entendu de travers, il a dit que Samson se rendait chez cette femme, peut-être dans un contexte d'espionnage. Je pense qu'il espionnait mais c'était quelque chose de différent que la terre, si vous voyez ce que je veux dire. Je considérerais donc cela comme si Samson faisait à nouveau ça avec des femmes. Je prendrais donc cela dans un contexte négatif. Mais ce pourquoi je veux utiliser ce passage, c'est cette femme, la prostituée à Gaza, les Philistins les entourent et disent, demain matin, nous allons tuer Samson. Alors Samson se réveille au milieu de la nuit, retire le cadre de la porte du mur et s'en va avec. Maintenant, c'est ce qui est vraiment important pour moi, en termes de force de Samson. Tout d'abord, si vous retirez ce cadre de porte d'ici, est-ce que ce sera une grosse chose à transporter, ce cadre de porte? Ce cadre de porte est en métal et, pour être honnête avec vous, il s'agit de métal ou de tôle bon marché. Ce serait environ 30 à 40 livres. Ce n'est pas trop, vous pourriez transporter 30 à 40 livres sur une longue distance, n'est-ce pas? Lorsque vous retirez les montants de porte dans le monde antique, ils n'étaient pas fabriqués à partir de métal bon marché, mais à partir de poteaux. Parlons-nous de centaines de livres. Oui, des centaines de livres. Samson les transporte. L'autre chose, est-ce que vous avez déjà fait, est-ce que quelqu'un a déjà mis du foin ici? Quand j'étais au Tennessee, nous avons mis du foin. J'étais un jeune homme d'environ 25 ans et ces gars-là recevaient 100 à 200 bottes de foin. Ils ont dit, tu montes dans le camion et tu nous les jettes dans le loft. Alors j'entre là-dedans et ces bottes de foin pèsent entre 30 et 40 livres, je les jette là-haut. Alors je jette ces bottes de foin là-haut. Ce n'est rien parce qu'ils pensent que je suis un citadin et qu'ils sont des gens de la campagne. Ce sont les agriculteurs, les plus forts. Alors je jette ces bottes de foin là-haut et je jette, vous savez, 20 balles de foin là-haut. Ensuite, je jette 30 bottes de foin là-haut. Ensuite, j'en lance entre 40 et 50. Au moment où ils en ont fini avec moi, je poussais les balles vers le haut avec mon épaule, je ne pouvais plus lever les bras parce que c'était tout simplement trop. Samson transporte des objets sur environ 20 miles et tout était en montée. Il les installe devant Hébron. Nous savons où se trouvent ces endroits. Cela fait environ 20 miles et c'est en montée. Question: lorsque vous transportez des poids en montée, la montée est-elle un problème? Oui, et 20 miles, est-ce une bonne distance pour transporter ce genre de poids? Est-ce que ce type est un hulk? Ce type est un énorme individu. Un être humain normal, vous auriez de la chance de marcher 20 miles en haut d'une colline comme ça, et il transporte au moins quelques centaines de livres par ici. Samson est donc incroyablement fort. À propos, l'Esprit de Dieu vient sur lui pour lui donner du pouvoir et il est extrêmement doté. C'est donc à ce moment-là qu'il transporte les murs là-bas ou la porte en ce moment. Samson et Dalila. Femme suivante, et c'est la dernière femme de sa vie, Dalila. Dalila est très célèbre même aujourd'hui, elle a une émission de radio. Mais il est dit, quelque temps plus tard, il Samson est tombé amoureux. Il s'agit du chapitre 16, verset 4, tomba amoureux d'une femme de la vallée de Sorek qui s'appelait Dalila. Remarquez que cela dit qu'il est tombé amoureux d'elle. Quel est le problème avec ça? Est-ce que beaucoup d'entre vous ont été formés à une sorte de pensée grecque où il y a agape et eros, n'est-ce pas? Et l'amour agape et eros sont très très différents, n'est-ce pas? L'amour agape est un amour très spirituel et altruiste et l'amour eros est érotique, très lubrique. L'amour érotique est donc lubrique, l'amour agape est spirituel. En grec on fait cette séparation entre agape et eros. En hébreu, ils n'ont pas cette distinction. Le mot pour amour est le mot ahaf et il inclut à la fois l'amour et la luxure. Cela soulève donc la question, est-il toujours facile de faire la distinction entre l'amour et la luxure? Quand j'étais plus jeune, ils essayaient de dépeindre la luxure ici et le véritable amour ici. Ce que je veux dire, c'est que lorsque vous tombez réellement amoureux, est-ce que parfois l'amour et le désir s'en mêlent? Soyez donc prudent avec cette façon de penser analytique grecque. La pensée hébraïque est beaucoup plus organique et holistique. Alors Samson tombe amoureux d'elle. Maintenant, elle le harcèle et en gros, les Philistins se présentent à Dalila et lui disent, Dalila, tu veux gagner de l'argent? Et Dalila dit, oh ouais. Alors ils ont dit, dites-nous le secret de sa force et nous l'abattrons. Ils vont lui payer de l'argent et remarquez ce qu'elle fait. Dalila vend Samson. Remarquez que la femme vend l'homme pour de l'argent. Souvent, c'est l'inverse, mais dans ce cas, c'est Dalila qui vend Samson. Alors elle vient voir Samson et elle harcèle Samson, « Dis-moi le secret de ta grande force et comment tu peux être ligoté et maîtrisé. » Samson lui répondit, « Si quelqu'un m'attache avec cette lanière fraîche qui ne peuvent pas être séchées, je serai aussi faible que n'importe quel autre homme. » Devinez quoi? Il se réveille et il est attaché par cette lanière. Samson, les Philistins sont sur toi, que fait-il? Il casse les choses et saute. Maintenant, quand vous avez lu ceci, vous avez réalisé à quel point il était stupide. Elle fait ça encore et encore, comment quelqu'un peut-il être aussi stupide? Je veux expliquer, je ne pense pas que ce soit le but ici. Ce récit est compressé. Est-il possible que ces différentes épreuves avec les sept lanières fraîches, les sept cordes qui vont attacher les tresses de ses cheveux, est-il possible que cela ait duré des mois et que ce récit se soit étalé? Lorsque vous écrivez une histoire, est-ce que les gens prennent le récit et le compressent? Ce qui se passe donc, c'est que cela donne l'impression que tous ces événements se sont succédés les uns après les autres et sont étroitement liés. Il se pourrait qu'ils aient été séparés dans le temps. Ce que j'essaie de dire, c'est que Samson n'est pas aussi stupide qu'il en a l'air. Cela peut donc s'être étalé sur une période de temps considérable. Bon, finalement elle descend, il commence à jouer avec les tresses comme ça. Harceler semble fonctionner. Ce que je suggère ici avec Samson, c'est que la compression temporelle est la manière dont l'histoire est écrite. Au fait, les historiens prennent-ils parfois des événements espacés d'environ 50 ans et les replacent-ils dans l'histoire? Tout simplement parce que c'est ainsi qu'ils écrivent l'histoire et qu'ils ne veulent pas entrer dans tous les détails. L'histoire implique donc toujours une sorte de compression. Si vous étudiez l'histoire au Gordon College, vous trouverez ici de merveilleux historiens qui parlent d'historiographie et de la manière dont l'histoire est écrite. Bien souvent, des événements éloignés les uns des autres sont rapprochés parce que vous réduisez l'histoire, vous compressez l'histoire. Si vous deviez écrire une histoire totalement exhaustive, ce serait trop difficile à lire pour quiconque. Tout l'historique est compressé. Maintenant, ce qui est intéressant avec Samson, c'est que Dalila lui coupe les cheveux et elle dit aux Philistins, « Je pense que j'ai compris cette fois. Ça y est. » Alors elle lui rase la tête, lui coupe les cheveux et Samson est alors capturé par les Philistins. Quelle est la première chose qu'ils lui font lorsqu'ils le capturent? Quand il est vraiment fort, vous voulez utiliser sa force mais vous voulez le neutraliser, que faites-vous? Vous l'avez aveuglé. Alors ils l'ont aveugle, ils lui ont arraché les yeux, et maintenant il est fort mais un enfant peut l'attaquer parce qu'il ne voit pas d'où il vient. À propos, ils l'ont fait sortir, puis il est écrit, quand les gens l'ont vu, ils ont loué leur Dieu en disant, « Notre Dieu a livré notre ennemi entre nos mains. » Mais Dieu va-t-il utiliser Samson même dans un état aveuglé pour accomplir ses objectifs? La fin de Samson au temple des Philistins. Donc ce qui se passe, c'est que les gens retirent Samson et lui font faire des tours. C'est comme un cirque et vous avez ce type grand et fort qui va faire tous ses tours. Samson fait ses tours, mais ensuite Samson le dit au garçon qui l'accompagne pour le guider. D'abord, il prie Dieu, puis Samson a prié le Seigneur, « Ô Seigneur souverain, souviens-toi de moi. Ô Dieu, s'il te plaît, fortifie-moi encore une fois, et permets-moi d'un seul coup de me venger des Philistins pour mes deux yeux. » Samson est-il plutôt vengeur ici? Il veut se venger de ses deux yeux. Auriez-vous aimé qu'ils disent, « Je veux que ton nom, Dieu, soit honoré. Je veux montrer que tu es le vainqueur. » Mais au lieu de cela, il s'inquiète pour ses deux yeux. Samson atteint les deux piliers centraux. Il va prendre les deux piliers centraux et il va effondrer tout le bâtiment sur environ 3000 personnes. Samson tue plus dans sa mort qu'il n'a tué dans sa vie. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est que nous avons deux piliers dans cette pièce. Si vous renversiez ces deux piliers, tout ce bâtiment s'effondrerait-il? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a suffisamment de poutres transversales pour pouvoir maintenir le toit. Savez-vous ce qu'ils ont trouvé dans la plaine des Philistins? Ils ont trouvé des temples philistins. Différentes cultures produisent-elles différents styles de temples? Oui. Le temple d'Israël, d'ailleurs le temple de Salomon a été construit sur un modèle phénicien par Hiram, pourquoi? Parce qu'il a engagé Hiram de Phénicie pour le construire. quand vous regardez le temple israélite que Salomon a construit, il ressemble beaucoup à ce construit en Phénicie. Le plan est exactement ce que vous avez en Phénicie. Ils ont découvert que les temples des Philistins avaient deux piliers au milieu avec des murs porteurs. En d'autres termes, tout le poids repose sur ces deux piliers. Vous démontez ces deux piliers et que arrive-t-il à ces temples philistins? L'ensemble s'effondre. Alors, l'archéologie montre-t-elle que cela fonctionne réellement? Vous retirez tout le bâtiment qui repose sur ces deux piliers. Cela a donc été une confirmation vraiment intéressante. La Bible dit que Samson démolit les deux piliers et que l'endroit s'effondre. Samson meurt et c'est la vie de Samson. Maintenant, comment Samson peut-il être considéré comme un grand héros de la foi? Compte tenu de toute cette vie gâchée. Pour être honnête avec vous, il y a beaucoup de choses foirées. Je pense que la Bible nous montre que certains des grands héros de la foi ont eu des vies gâchées. Cela me donne de l'espoir, parce que j'ai une vie foirée. J'espère que ce n'est pas si grave, mais vous savez ce que je dis. Avez-vous vu presque tout le monde dans l'Ancien Testament que nous avons vu? Est-ce que chacun d'entre eux a eu des problèmes d'une sorte ou d'une autre? David est l'homme selon le cœur de Dieu, eh bien, vous connaissez David maintenant, n'est-ce pas? Donc tu as des problèmes avec tous ces gens. Je pense donc que la Bible dit que les croyants en Dieu ne sont pas meilleurs que tout le monde, ils ont des problèmes comme tout le monde, mais ils croient en Dieu et Dieu les utilise pour accomplir ses desseins. Ce sont des héros imparfaits. C'est merveilleux de pouvoir être un serviteur de Dieu même si des choses se passent mal. Samson est donc un héros mais il n'est pas parfait, il a ses problèmes et telle est la vraie vie. L'histoire de deux Lévites. Voici maintenant le conte de deux villes, non, le conte de deux Lévites. Le livre des juges se termine par ces récits, que j'appelle, de deux Lévites. Eh bien, tout d'abord, permettez-moi de commencer cette histoire. C'est le premier Lévite, un Lévite d'Anite. Je vais au chapitre entre 17 et 18 de Juges. Il y a un gars d'Éphraïm, où est Éphraïm? Éphraïm est juste au-dessus de Benjamin. Il s'agit donc uniquement de Juda, Benjamin et Éphraïm, donc c'est exactement là-dedans. Il y a un gars à Éphraïm et il a beaucoup d'argent et d'or. Alors il se fait une idole. Puis il dit, « Eh, j'ai une idole maintenant. » Mais tout d'un coup, un Lévite passe par Éphraïm et ce type, Miché, dit au Lévite, « Tu sais que j'ai cette idole en or / argent ici, pourquoi ne viens-tu pas être mon prêtre? J'ai cette idole et je te paierai, tu peux vivre avec moi, je te paierai et je te donnerai un abri. Je vais te donner à manger. Je prendrai soin de toi et tu seras mon prêtre. » Le Lévite devient alors le prêtre de Miché. Miché fabrique l'idole, puis il engage ce Lévite comme prêtre. Maintenant qu'il a une idole et un prêtre, ce type a un très bon boulot. Il a ce coin religieux ici. Maintenant, que se passe-t-il? Quel était le problème de la tribu de Dan? La tribu de Dan est près de la plaine des Philistins, ce qui signifie que les Philistins attaquaient les Danites tout le temps parce que leur territoire tribal était juste à l'extérieur avec les Philistins à l'ouest de Benjamin. Alors les Danites dirent, « Nous en avons assez de combattre les Philistins, nous allons aller vers le nord. » Nous avons entendu dire que c'était vraiment très sympa et que c'était l'un des plus beaux endroits d'Israël au nord. Les Danites migrent donc vers le nord. Lorsqu'ils migrent vers le nord, par quelle tribu ont-ils dû passer? Éphraïm. Alors ils passent devant la maison de Maïque et disent, « Eh, ce type Maïque a une de ses idoles en métal et il a aussi un prêtre, ce Lévite. » Ainsi, la tribu de Dan, c'est toute une tribu qui se déplace, et toute cette tribu va se consolider, passant du statut de territoire tribal à celui de ville. Au nord d'Israël, là où est assis Caïl. Dan sera le point le plus au nord d'Israël. La tribu se déplace du territoire philistin vers le nord. Ils viennent voir ce Lévite et lui disent, « Et Lévite, pourquoi ne viens-tu pas avec nous ? Si vous venez avec nous, vous pouvez être Lévite et prêtre pour toute une tribu. Vous n'êtes pas obligé d'être l'un d'une petite famille, vous pouvez être prêtre pour toute une tribu. » Alors le Lévite dit, « Eh, c'est un très bon concert, je vais avec vous les gars. » Alors le Lévite se dirige vers le nord. Le Lévite monte alors jusqu'à la ville de Dan, à l'extrême nord, et il y érige une idole. Ce prêtre devient alors prêtre à Dan. Est-ce de l'idolâtrie en Israël? C'est donc là que Dan est associé à cette idolâtrie. Il est même dit ici à un certain endroit, c'est pourquoi les Danites se sont érigés des idoles et Jonathan, fils de Gershom, fils de Moïse, et ses fils étaient prêtres pour la tribu de Lévi jusqu'au moment de la captivité du pays. Ils ont continué à utiliser les idoles fabriquées par Miché pendant tout le temps où la maison de Dieu était à Silo. Le tabernacle sera donc à Silo. Pendant tout le temps à Silo, les Danites adoraient une idole à Dan. Maintenant, il y aura un autre endroit où une idole sera installée plus tard. Ce récit vous prépare à cela plus tard. Plus tard, il y a un gars nommé Jéroboam, tu te souviens de lui. Et il va installer des idoles dans quels deux endroits? L'un d'eux sera chez Dan à la sortie de ce récit, je crois, l'un d'eux sera chez Dan. Où sera l'autre veau d'or qu'il va installer? Est-ce que quelqu'un se souvient de l'endroit? Bethel? Oui, à Bethel. Pourquoi l'installe-t-il à Bethel? Bethel est-elle un lieu saint? Que s'est-il passé à Bethel? Est-ce à Bethel que l'échelle de Jacob a eu lieu? C'est ici que Jacob a rencontré Dieu à Bethel. Alors Jéroboam utilise cet endroit et y dresse un veau d'or et dit, « Celui-ci est Yahweh, ceci est Jéhovah, ce veau. » Dieu dit, « Non, je ne suis pas un veau, je ne suis pas un veau d'or. » Dieu condamne Jéroboam pour avoir installé des idoles à Dan et à Bethel. Dan était donc au nord et Bethel au sud. Ce récit pose donc ce problème qu'Israël aura plus tard. Lévite et sa concubine. C'est le premier Lévite, le Lévite Danite. Maintenant, notre deuxième Lévite et cette histoire se trouve au chapitre 19 et cette histoire est une histoire plutôt grossière de la concubine du Lévite. Je veux donc juste mettre un peu de géographie là-dessus. Tout d'abord, voyez-vous ici qu'il y a une route principale qui passe juste ici. Cette route est la route 1. Maintenant, cette route, ce n'est pas la route 95, la 95 est une grande super autoroute. C'est ce qu'on appelle la route des crêtes. C'est la route des crêtes. Il s'étend sur une crête au nord et au sud, le long de la colonne vertébrale d'Israël. Cela s'étend sur une crête et cela s'appelle une ridge route. Donc, vous venez de Bethel, vous voyagez à Mispa, Gibea, Jérusalem, Bethléem jusqu'à Hébron sur la route des crêtes. Tout d'abord, quand on a un Lévite avec une concubine, est-ce un problème? Le Lévite a une concubine et la concubine rentre chez elle en courant. Alors elle rentre chez elle en courant à Bethléem. Alors le Lévite la poursuit et il court et il la rattrape à Bethléem chez ses parents. Ensuite, c'est un peu comme des vacances de Thanksgiving. Vos parents vous ont-ils déjà dit, lorsque vous rentrez à la maison, tu ne peux pas rester juste un jour ou deux de plus? Est-ce que tes parents font déjà ça? Tu ne peux pas rester encore un peu. Et donc ce qui se passe, c'est que le Lévite reste un peu plus longtemps dans la maison de la concubine. Finalement, il dit, nous devons sortir d'ici. Je dois y aller. Ils partent donc tard dans l'après-midi. Ils arrivent ici, il y a environ 8 km lorsqu'ils traversent Jérusalem. Quand ils arrivent à Jérusalem, la dame est fatiguée et elle dit, « Je suis juste fatiguée de marcher, pourquoi ne restons-nous pas ici à Jébu ?» Mais le gars dit, « Non, je ne veux pas aller à Jébu. Les Jébuséens qui y vivent ne sont pas juifs. » Alors il dit, « Je veux monter sur un territoire juif. » Je monte donc à Gibéa depuis Bethléem. Alors il monte et passe par Jérusalem. Il n'entrera pas là-bas parce que ces gens ne sont pas juifs. Il s'approche de Gibéa et dit que je veux être avec le peuple juif là-bas à Gibéa. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'il arrive à Gibéa? C'est là que ça devient méchant. Le scénario se déroule ainsi. Il arrive en ville et c'est presque une situation de Sodome et Gomorre. Il arrive en ville et se rend dans le quartier, sur la place commune. Un vieil homme s'approche de lui et lui dit que tu ne devrais pas être ici. Viens à la maison avec moi. Il invite la concubine et le lévite chez lui et dit que vous ne devriez pas être ici. Il était une fois que je voyageais dans la ville de Los Angeles, je n'y suis jamais allé auparavant. Nous avons roulé jusqu'en Californie. Alors j'ai dit que je voulais descendre à Los Angeles. Je veux voir la plage de Los Angeles et mon ami a donc refusé, je ne veux pas descendre à Los Angeles. Il était censé nous faire visiter. J'ai dit que nous descendions à Los Angeles et finalement il a dit que nous descendrions à cet endroit appelé Venice Beach. Alors nous descendons à Venice Beach et nous regardons là-bas avec mes enfants. Nous remontons dans le van que nous avions et nous essayons de monter sur les voies rapides. Ces voies passent au-dessus de nos têtes et nous ne pouvons pas accéder aux voies. Nous parcourons donc tous ces quartiers de Los Angeles. Nous n'avons aucune idée d'où nous sommes. On arrive, il y a un gars d'environ 6 minutes 5 gros mecs. Nous maintenons mon rôle par la fenêtre et disons, pouvez-vous nous dire comment emprunter l'autoroute ici? La première chose que le gars m'a dit, il n'a même pas répondu à ma question, la première chose qu'il a dit, tu ne devrais pas être ici, tu ne devrais pas être ici. Question, quand un type comme lui dit tu ne devrais pas être ici, question, ne devrions-nous pas être là? Oui monsieur. Nous essaierons de sortir d'ici dès que possible. Comment accéder à l'autoroute? Il nous a donc expliqué comment s'y rendre, mais était-il vraiment clair que nous étions hors de notre quartier? Alors ce que vous avez ici avec ce vieil homme qui l'avertit de ne pas rester sur cette place où ça va être mauvais pour vous. Viens à la maison avec moi. Alors il rentre à la maison avec lui et que se passe-t-il? Les gars se présentent à la porte et ensuite que se passe-t-il? Il commence à frapper à la porte comme à Sodome et Gomorre. Amenez-nous le gars afin que nous puissions avoir des relations sexuelles avec lui, ou, afin que nous puissions le connaître. Le gars fait presque la même chose en poussant ses filles dehors, le lévite à sa concubine alors il pousse sa concubine dehors. Vous vous souvenez de l'histoire parce qu'elle est tellement dégoûtante que vous ne pouvez pas vous empêcher de la manquer. Les mecs abusent des femmes toute la nuit, elle vient le lendemain, elle est où? Le lévite ouvre la porte le lendemain et voilà sa concubine allongée par terre. Il dit lève-toi, allons-y, il est temps d'y aller maintenant. Mais la concubine ne bouge pas et tout d'un coup il se rend compte, sa concubine est morte. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il la met sur son âne et la reprend. Alors que fait-il? Ça s'empire. Il est tellement énervé que ces types aient tué sa concubine qu'il commence à la découper en morceaux. Il la coupa en 12 morceaux et envoya les parties de son corps aux 12 tribus d'Israël. À propos, quand vous êtes juif cacher et que vous obtenez cette partie du corps, les tribus deviennent folles. C'est, oh, nous n'avons jamais rien vu de pareil en Israël auparavant. Que se passe-t-il ici? Dans la ville de Gibea, nous allons éliminer ces gens. Ils doivent être punis pour ce qu'ils ont fait. Alors les tribus, les 11 tribus, se rassemblent. Ils montent contre Gibea et la tribu de Benjamin qui est située près de Gibea. La tribu Benjamin dit que nous n'abandonnerons pas Gibea. Ainsi toute la tribu de Benjamin part combattre les 11 autres tribus d'Israël. Guerre intertribale. Benjamite alors maintenant, il y a une guerre tribale et que se passe-t-il? Les Israélites montent pour les attaquer et ils perdent du premier coup. Ils retournent vers Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, ces gens sont méchants. Nous essayons de faire ce qui est juste. Dieu dit, remonte. Ils remontent et les tribus d'Israël battent les Benjaminites mais alors quel est le problème? Ils tuent tous les Benjaminites mais 600 d'entre eux s'enfuient. Ils montent sur ce territoire élevé et défendable où ils ne peuvent pas les atteindre. Il reste donc 600 Benjaminites. Ils veulent monter et tuer les 600 Benjaminites mais quel est le problème? Si vous tuez les 600 Benjamites, que arrive-t-il à l'une des tribus d'Israël? C'est comme les rhinocéros noirs, ils disparaissent et il n'y a plus de la tribu benjaminite. Alors ils réalisent que nous devons demander un temps mort. Il n'en reste que 600. Nous devons reconstituer la tribu, sinon nous allons perdre une de nos tribus d'Israël. Mais alors quel est le problème? Comment ces gars vont-ils se reproduire? Ils doivent épouser quelqu'un, mais tous les gars qui étaient au combat ont juré qu'ils ne donneraient pas leur fille en mariage à un benjaminite. Voudriez-vous donner votre fille à un gars comme ça? Non. Alors ils ont dit, nous ne donnerons pas nos filles là-bas. Alors j'ai pensé, qu'allons-nous faire maintenant? Nous avons 600 gars. Nous devons leur donner des enfants et les laisser se multiplier à nouveau. Il y a une ville juste ici appelée Jabesh-Galaad et les hommes de Jabesh-Galaad ne sont pas venus se battre. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés à Jabesh-Galaad, ont rassemblé 400 filles et ont amené ces 400 filles chez les Benjaminites. Maintenant, il n'en reste plus que 200 qui n'ont pas de femmes. Alors maintenant, qu'allons-nous faire? Nous en avons 200 qui n'ont pas de femmes. Au fait, ne riez pas, je pense que vous voulez faire comme la Bible le fait pour les rencontres. Vous voulez sortir avec quelqu'un exactement comme le fait la Bible. Kiss détime à Dieu, comme le fait la Bible. Alors ils vont à Silo et les filles sortent pour un festin et elles vont danser à Silo où se trouvait le tabernacle. Ils vont danser. Ils ont dit, ce que nous ferons de ces 200 gars, nous les mettrons dans les buissons. Quand les filles sortent pour danser, les gars sortent des buissons et les attrapent et celui que vous attraperez est à vous. Maintenant, j'ai toujours dit au Gordon College que nous avions un quat. Faites-le comme le dit la Bible. Voilà, oui, je plaisante. C'est ce qui arrive à ces autres gars. Ainsi maintenant la tribu de Benjamin est reconstituée. Maintenant tu dis pourquoi tu racontes cette histoire sanglante, c'est ce que dirait ma mère. Tu n'es pas obligé de raconter ces histoires Ted. Il y a des histoires vraiment sinistres dans la Bible que vous ne devriez pas raconter à des étudiants. Ma question se pose cependant, la concubine violée et tuée divisée elle pour régner, c'est ainsi qu'ils ont obtenu les épouses de Benjamin, Jabesh-Galaad a fourni les épouses. Ce Jabesh, d'ailleurs, la raison pour laquelle je le mentionne est que cela pourrait devenir important pour nous plus tard. Il y a un gars dont je ne dirai pas son nom mais il était de Jabesh-Gilead puis des danseurs de Shiloh et c'est là qu'ils ont trouvé ses épouses pour les Benjaminites. Maintenant, pourquoi la Bible inclut-elle cette histoire et la Bible ne nous dit pas pourquoi, mais je pense que nous avons ici une suggestion avec l'histoire des Benjaminites. Que met en place le livre des juges? Il n'y a pas quoi en Israël. Au temps des juges, il n'y a pas de roi en Israël et chacun fait ce qui lui paraît bon. Qui sera le premier roi d'Israël? Saül. De quelle tribu est Saül? Benjamin. Je crois que cette histoire met en place le règne du roi Saül. Je crois que cette histoire du livre du juge est mise là pour établir la tribu de Benjamin. Au fait, quand ils vont faire de Saül le roi, tu te souviens de ce que dit Saül? Il dit, « Je suis de la plus petite tribu. » Est-ce que tout le monde pourquoi il est de la plus petite tribu? Oui. Donc Saül sera de la tribu de Benjamin, donc je pense que cette histoire est mise là comme toile de fond du roi Saül. Ruth. L'histoire suivante est l'une des plus belles histoires de la Bible. C'est l'histoire de Ruth. Green Fried Steel Magnolia, ce sont des films du passé sur les amitiés féminines. Les amitiés entre femmes sont-elles différentes des amitiés entre hommes? J'ai surveillé ma femme pendant 30 à 60 ans. J'ai vu comment ma femme se fait des amis. C'est ainsi qu'elle se fait des amis et la nature de ses amitiés est différente de celle des amitiés entre hommes. Ce que vous avez dans le livre de Ruth, ce sont deux femmes que vous n'avez pas souvent l'occasion de voir dans les Écritures. Ces deux femmes sont les meilleures amies qui deviennent des amies très proches. C'est une belle histoire d'amitié dans le livre de Ruth. Voici ce qui s'est passé dans le livre de Ruth. Il y a une série de tragédies qui se produisent dans le livre. Tout d'abord, ils viennent de la ville de Bethléem. Naomi est une femme âgée et son mari Elimelech est originaire de Bethléem. Il y a une famine dans le pays. Alors, quand il y a une famine dans le pays, que faites-vous? Vous migrez. Vous migrez d'une altitude inférieure vers une altitude plus élevée, car une altitude plus élevée reçoit plus d'eau de pluie. Ils viennent donc de Bethléem, qui se trouve ici. Ils descendirent le Jourdain et arrivèrent de ce côté-ci jusqu'à Moab. Moab est environ 500 à 700 pieds plus haut et ce qui se passe, c'est qu'il pleut davantage ici. C'est pourquoi ils viennent à Moab pour récolter des récoltes. Ils s'installent ensuite à Moab et que se passe-t-il ensuite? Elle a deux fils Mélon et Chilion. Quand ces deux fils seront à Moab, quel genre de femme vont-ils épouser? La géographie et les hormones sont égales à l'amour. Ils vont épouser des Moabites. Leurs deux fils Mélon et Chilion épousent des femmes moabites et l'une de ces femmes est Ruth. Ruth est donc la belle-fille de Naomi et son fils l'épouse. Maintenant, que se passe-t-il dans le récit? Tous les hommes font exactement la même chose. Cela arrive souvent avec les hommes. Tous les hommes font quoi? Mourir. C'est généralement ce que font les gars. Tous les hommes meurent. Maintenant, ce qui se passe, c'est que vous avez trois femmes à elles seules. Trois femmes dans une culture seule, c'est si dur. Oui, surtout dans cette culture. Au fait, est-ce vrai dans notre culture? Oui, je n'oublierai jamais que j'avais une amie étudiante qui était chez nous tout le temps où nous l'avons en quelque sorte adoptée comme notre fille. Elle venait de Californie et elle était à Winona Lake, dans l'Indiana et elle a pris sa voiture. Elle était comme notre fille et elle était tout le temps chez nous. Elle a donc emmené sa voiture et sa batterie était à plat. Ce type nommé Pinky avait une station-service et il a remplacé sa batterie. Maintenant, lorsqu'une batterie tombe à plat, la première question que je pose est la suivante, l'alternateur est-il bon ou l'alternateur a-t-il tué la batterie? Ce n'est donc pas vraiment le problème de la batterie, c'est l'alternateur qui tue la batterie. Alors le gars remplace la batterie, lui facture beaucoup d'argent pour la batterie et environ 2 ou 3 semaines plus tard, devinez quoi? La seconde où la batterie tombe à plat. Elle entre et le gars essaie de la charger maintenant au double pour la batterie et l'alternateur. Alors elle revient en disant que je ne sais pas quoi faire. Maintenant, question, parce qu'elle était une femme, Pinky a-t-elle profité d'elle? Oui, il l'a fait. Alors j'étais furieux et je suis donc monté dans ma voiture. Je n'ai fait ça qu'une seule fois dans ma vie. J'ai conduit et j'ai garé ma voiture, il avait 2 portes de garage entrant dans son garage. Je me suis garé sur le côté devant eux deux, pour qu'aucune voiture ne puisse entrer ou sortir. Je suis allé voir Monsieur Pinky. J'ai commencé, il avait tous ses clients alignés là, assis là. J'ai commencé à lui dire qu'il arnaquait cette fille. Je l'ai fait très doucement au début. Il est devenu un peu belliqueux. Alors j'ai élevé le ton de ma voix et je lui ai crié dessus à propos de la façon dont il arnaquait cette jeune fille. Pendant ce temps, tous ses clients étaient assis là. Obtenir le point. Et donc je suis très bruyant. Puis il dit que je dois sortir ma voiture là-bas. J'ai dit, je suis désolé, je ne déplacerai pas ma voiture jusqu'à ce que vous lui rendiez son argent. Je n'allais nulle part. Alors finalement, le gars qui me crie dessus se dirige finalement vers la caisse. Il sort son chèque et nous le renvoie. Une fois que nous avons récupéré notre argent, devinez quoi? Nous sommes partis. Au fait, ai-je dit par justice poétique aujourd'hui que si vous descendez à Varsovie dans l'Indiana et que vous regardez où se trouvait la station-service de Pinky, devinez ce qui est arrivé à la station-service de Pinky. Ce n'est pas une blague, 2 ans plus tard, un bulldozer est allé là-bas et ils l'ont pavé et ont transformé Pinky's en parking maintenant. Quoi qu'il en soit, je pensais qu'il y avait là une justice poétique. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que vous avez Naomi, Ruth et Orpah. Orpah rentre chez elle mais Ruth retourne avec Naomi à Bethléem. Vous obtenez ces femmes seules dans leur culture, sont-elles très vulnérables dans cette culture? Très vulnérables dans cette culture. Alors maintenant, vous avez tous les mâles qui meurent. Quelque chose qui est facile à manquer dans le livre de Ruth et qui est vraiment important, ce sont les noms des personnages. Les noms des personnages sont importants. Vérifiez le nom de ce type, Elimelech. Ils avaient une chanson comme celle-là à mon époque. On l'appelait Elimelech, Elimelech, Elimelech. Quoi qu'il en soit, c'était Elimelech. Eli veut dire quoi? Elle, est Dieu. Eli, est mon Dieu. Qu'est-ce que, Melech? Roi. Elimelech signifie, mon Dieu est roi. Nous sommes à l'époque des juges. Qui est le roi d'Israël? Elimelech, mon Dieu est roi. Est-ce un bon nom? Au temps des juges, mon Dieu est roi. Mélon et Chilion, les noms des 2 enfants signifient, faible, et, maladif. Que font, faiblement, et, malade, dans le récit? Ils meurent bien. Voyez-vous à quel point ces noms correspondent incroyablement. Les faibles et les malades meurent. Maintenant, Naomi joue-t-elle avec son propre nom. Naomi, la mère qui a perdu son mari, revient en ville et c'est au chapitre 1 verset 20. Ne m'appelle pas Naomi, Naomi signifie plaisir. Ne m'appelle pas Naomi, ou plaisanterie, appelle-moi, quoi. Est-ce que quelqu'un se souvient de ça, appelle-moi Mère. Qu'est-ce que Mère? Amertume. Pourquoi m'appeler Mère? Parce que le Tout-Puissant a rendu ma vie très amère, je suis sorti rassasié mais le Seigneur m'a ramené vide. Je suis amère. Alors elle dit, ne m'appelez pas agréable, appelez-moi amère Mère. Au fait, pour finir, savez-vous ce que signifie, Ruth? Ruth vient de la racine qui signifie, amitié, ou, ami. Au fait, quel rôle Ruth joue-t-elle dans le récit? Ami de Naomi. À propos, Boaz et lui sont l'un des héros. Que veut dire Boaz? Boaz signifie, force. Quel rôle Boaz joue-t-il dans le récit? C'est lui le plus fort. Voyez-vous à quel point apprendre l'hébreu est vraiment cool. Tout d'un coup, vous dites, waouh, regarde ça. C'est assez incroyable. Maintenant, à propos de l'amitié entre Naomi et Ruth, Ruth fait ici cette déclaration vraiment merveilleuse. Naomi vient de dire qu'elle est la vieille dame, qu'elle a perdu son mari, qu'elle a perdu ses deux fils. Elle se tourne vers Ruth, qui est sa belle-fille, et lui dit, retourne chez toi. Tu ne peux pas venir avec moi. Si tu viens avec moi, je suis vieille. Si j'avais un enfant aujourd'hui, tu n'attendrais pas qu'il grandisse pour l'épouser. Alors rentre chez toi. Le Seigneur m'a traité avec amertume. Et elle lui dit de rentrer chez elle. C'est la réponse de Ruth, mais Ruth a répondu, ne me pousse pas à te quitter ou à me détourner de toi, où tu iras, j'irai, où tu restes, je resterai. Votre peuple sera mon peuple et votre Dieu mon Dieu. N'est-ce pas une belle déclaration? Où tu iras, j'irai, là où tu resteras, je resterai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu mon Dieu. Ruth est-elle une amie? Un ami en effet. C'est donc une belle chose que Ruth fasse preuve d'une loyauté aimante. Tu sais, j'ai oublié qu'il y a ici un mot hébreu qui est vraiment beau pour ce genre de relation. C'est le mot rizd. Je n'en ai pas beaucoup parlé du tout. Rizd, je l'ai traduit de différentes manières au cours de ma vie, je traduisais, amour têtu. Ce n'est pas seulement de l'amour, mais c'est un amour qui ne s'arrêtera pas. C'est un amour têtu qui ne fait que poursuivre. Maintenant, dans le DAV, je traduis, amour fidèle, en d'autres termes, c'est un amour fidèle qui tient. C'est Ruth qui est fidèle à Naomi. Elle présente le genre d'amour rizd, cet amour fidèle. C'est donc un excellent exemple de rizd. Au fait, qui a le grand rizd de tous les temps? Dieu a un amour fidèle pour son peuple. C'est donc ce mot rizd qui est utilisé. Maintenant, ce qui se passe ici, c'est que Bethléem est ici-bas. J'essaierai juste d'y ajouter un peu de géographie. Moab est là-haut, alors il migre de Bethléem vers Elimelech et Naomi. Ils se marient et tous les gars meurent. Ruth et Naomi reviennent à Bethléem. Maintenant, finissons en quelque sorte cette histoire. Les circonstances affectent-elles notre vision de Dieu? Quand j'étais plus jeune, on m'a dit que les circonstances ne devraient pas affecter votre théologie. Cependant, regardez ceci, appelez-moi mère parce que le Tout-Puissant a rendu ma vie amère. Je suis sorti rassasié mais le Seigneur m'a ramené vide. Les circonstances affectent-elles la façon dont les gens regardent Dieu? Mon fils vient de rentrer d'Afghanistan. On lui tirait dessus presque tous les jours où il était là-bas. Question, cela a-t-il affecté sa façon de voir Dieu? A-t-il vraiment dû se demander comment il perçoit Dieu lorsqu'il a vu des gens exploser? Oui, cela affecte la façon dont vous voyez Dieu. Votre situation affecte la façon dont vous percevez Dieu. Je pense qu'il faut faire avec. Maintenant Ruth sort. C'est une machine à glaner. Qu'est-ce que ça veut dire, glaner? Glaner, c'est aller à la poursuite des moissonneurs. Alors ils sortent, prennent une faucille et coupent les stocks. Quand ils faucillent le grain, que se passe-t-il? Une partie du grain tombe par terre. Que font les pauvres? Les pauvres suivent derrière pour ramasser le grain que les moissonneurs jettent. En gros, les moissonneurs lâchent du grain par accident et les pauvres vont le chercher, c'est ce qu'on appelle le « glanage ». Ce qui se produit. Ruth sort glaner. Elle est avec les pauvres qui essaient de glaner de la nourriture. Boaz la remarque-t-il. Boaz la remarque et dit, « Tout le monde sait que vous êtes une femme vertueuse, une VW, ou avez-vous déjà entendu parler des femmes vertueuses auparavant ?» Proverbe chapitre 31. Il l'appelle une femme du chapitre 31 des Proverbes. Les gars disent à Boaz qu'elle a travaillé toute la journée. Boaz prend-il soin d'elle. Boaz dit que vous n'allez pas dans le domaine de quelqu'un d'autre, restez dans mon domaine. Boaz essaie-t-il de la protéger. N'allez pas dans le domaine de quelqu'un d'autre. Puis il dit à ses gars de lui donner du grain. Alors, quand elle rentre chez elle, elle a toutes ses céréales. Naomi dit, dans quel domaine étiez-vous? Elle dit celui de Boaz et tout d'un coup Naomi, entremetteuse, dit-elle, Boaz est apparenté à nous, tu sais. Alors elle entraîne Ruth et dit qu'il va être sur l'air de battage ce soir. Lorsque vous montrez là-haut, découvrez ses pieds et allongez-vous à côté de lui et il vous dira quoi faire. D'ailleurs, quand elle monte et découvre ses pieds, souviens-toi de ce que je t'ai dit à propos des « pieds » en hébreu. Les pieds peuvent signifier autre chose organes génitaux masculins et c'est probablement le cas dans ce contexte. Cela signifie-t-il qu'elle lui a découvert les pieds? Cela signifie probablement autre chose. Est-ce qu'elle s'offre à Boaz? Elle s'offre à Boaz. Est-ce que Boaz va lui dire, non? Soit dit en passant, si quelqu'un d'autre, à l'époque des juges, avait demandé à une femme de s'offrir à ce type, vous savez que cela aurait été fini. Boaz dit qu'il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un parent rédempteur plus proche que lui et il va lui dire, non. Maintenant qu'elle s'est offerte, va-t-elle se sentir blessée d'avoir été rejetée? Elle vient de s'offrir à lui tout entière et il va dire non. Est-ce qu'elle va être blessée? Alors Boaz lui dit que tu es une femme vertueuse, tout le monde le sait. Il lui dit que je dois vérifier auprès de ce type qui est un parent rédempteur plus proche que moi et s'il dit non, alors je t'épouserai. Alors il lui dit, non, mais est-ce qu'il l'honore? Est-ce qu'il, je ne veux pas appeler ça de la flatterie, est-ce qu'il la complimente? Il prend soin d'épargner sa dignité. Il lui dit de rentrer chez elle avant que les lumières ne s'allument pour que personne ne sache qu'elle était là. Il protège sa réputation et lui donne de la nourriture pour rentrer chez elle. C'est ce qu'on appelle le mariage du Lévirat. Quand quelqu'un meurt dans la famille, vous vous mariez dans la famille et vous élevez des enfants avec la personne décédée. C'est ce qu'on appelle le mariage du Lévirat où vous devez épouser une personne et élever des enfants pour la personne décédée. Maintenant, vous dites, attendez une minute Hildebrandt. Pourquoi cette histoire de Ruth est-elle ici? Dans le chapitre 4, Ruth est l'arrière-grand-mère de devinez qui? David. Ruth est l'arrière-grand-mère de David. Dans le dernier chapitre de Ruth, vous avez une généalogie allant de Boaz à David. Ce qui veut dire quoi? L'histoire de Ruth pointe vers qui? À David. Les derniers chapitres du livre des juges concernant la concubine du Lévite font référence à Saül. Voyez-vous comment ces deux histoires présentent les deux premiers rois d'Israël d'une manière très nette. Alors l'histoire de Boaz, Boaz c'est quoi? Force. Boaz la protège des îles. C'est un rôle vraiment important, un rôle de protecteur que Boaz remplit. Et nous avons terminé. Il s'agit du docteur Ted Hildebrandt dans sa conférence numéro 21 du cours d'histoire, de littérature et de théologie de l'Ancien Testament, qui termine le livre des juges avec Samson et le conte des deux Lévites et le livre de Ruth. Transcrit par Anna Towers et Maria Théo. Raph édité par Ted Hildebrandt.